Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va parler un petit peu de Nintendo et de ses résultats et de ses Indie World. On a aussi God of War et d'autres jeux auxquels on a un petit peu joué quand même. C'est parti, c'est pour tout de suite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro quoi, 265, je crois, quelque chose comme ça, 67. C'est fou. On est toujours en novembre 2022, j'allais dire 2023, et je suis Patrick Béja, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode pour lequel j'ai, en plus de sujets intéressants, des animateurs passionnants, à commencer par Maïté Escarina Cordoba. Comment vas-tu, Maïté ?
Alors, écoute, tu fais bien de m'appeler comme ça, Patrick, parce que j'aimerais comprendre d'où me vient ce pseudonyme qui apparaît sur le document de travail. À chaque fois que je le vois, je vois Maïté Escarina Cordoba, je me dis, mais pourquoi ?
Pourquoi ? C'est pas Cordoba, c'est juste Esca ? Mais t'avais...
Bah oui, pour...
Mais il y avait ton nom quelque part, c'était Escarina Cordoba. Quelque
jamais. Part.
Pardon ?
Jamais. C'est... Je sais
alors,
pas d'où tu le sens.
Je te garantis qu'il y avait Cordoba quelque part. Alors là...
Bah, je pense que quelqu'un t'a fait une blague et c'est pas moi.
D'accord. Okay,
alors je ne suis
bien.
Pas de Cordoue.
D'accord.
J'aimerais bien, mais non.
Tu es juste Maïté Escarina. Bon, bah oui.
Donc je me disais, ça doit être un jeu de mots avec. Comment elle s'appelle cette animatrice excentrique là qui dit tout est magnifique là sur M6, qui est insupportable.
Alors je sais pas, je ne regarde pas M6, mais non, parce que donc c'est pas de là que ça vient.
Old.
Fanny, la formidable productrice des émissions, me dit mais moi je fais que copier-coller ce qu'il y a sur les documents depuis le début, ce que je confirme.
Ah oui, Cordoula.
Vois, c'est pas... Écoute, c'est bon. un mystère.
Il nous faudra
que
le résoudre.
Essayons de résoudre un jour.
Il faut que je
le retrouve, c'est pas possible.
Écoute, ça sent l'autocomplétion. Quelqu'un a dû mettre quelque chose, genre underscore, Escarina underscore qui s'est transformé en Escarina Cordoula. Je n'ai pas.
Bon,
mais bon,
bien.
À part
écoute,
ça, tout va très bien.
tout va bien, c'est l'essentiel. Donc, bonjour à Maïté. Et on a aussi Oscar le maire Carcaloux. Comment vas-tu, monsieur Carcaloux? Non, je vais... Mais je t'assure, Oscar, j'ai vu quelque part. Carcaloux, c'est bien ton vrai nom de famille, non? Non, c'est pas ça?
Je crois que tu as dû t'embrouiller dans les noms.
C'est Fanny qui fait des blagues dans le document. Moi,
c'est ça, exactement. Non, bon, Oscar le maire, qui est là aussi, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous, l'honneur même, qui met en pause 2 secondes pour le temps de faire l'émission. D'une part, God of War, et d'autre part, son excellent podcast Le Père et le Maire, qui est un petit peu, je dois dire, j'aime beaucoup de podcasts de Game Cult, mais je crois bien que Le Père et le Maire, c'est mon podcast préféré. J'ai vraiment, vous l'aurez remarqué hein, quand je, en écoutant l'émission, c'est mon kink en fait, les news, résultats financiers de l'industrie, tout ça. Moi, j'aime beaucoup ça, je ne sais pas pourquoi je me fais du mal, mais j'aime beaucoup. Tout, et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ton kink aussi. Donc, entre Le Père et le Maire et God of War, t'es occupé, mais tu as du temps pour venir nous voir et j'en suis honoré.
Écoute, ça fait plaisir ce que tu dis, mais je suis honoré d'être là aussi.
Très bien, l'honneur est partout. On se croirait dans le livre de, comment il s'appelle, Jordan... bref, peu importe. Je suis en train de lire cette série interminable de Rhythm of War et machin. On va me dire ça dans la chatroom. Puisqu'on est en live, bien sûr, on va me rappeler de quelle série de livres il s'agit, Oathbringer, tout ça. Mais l'honneur est partout et il est aussi chez les Patriotes. Les Patriotes dont certains viennent d'arriver. On a Vincent, Alexis, Julien et Segretil, que je dis avec un vague accent suédois. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Merci beaucoup Vincent, Alexis et Segretil, ainsi que le producteur Steph Sinalco, El Stefano Sinalco, que là je dis avec un accent vaguement italien. Vous avez compris que je suis un homme international et je remercie en tout cas les Patriotes de me permettre de dire ces bêtises sur Internet. C'est grâce à vous, donc grâce ou à cause, hein, les auditeurs qui peuvent profiter de mes bêtises nous diront si c'est grâce ou à cause qu'il faut dire. Et sans plus d'autres formalités, on va passer aux informations essentielles de la semaine avec une première information qui est, bon, comme toujours, on couvre les résultats financiers, mais on couvre les parties intéressantes. Et quand on parle de résultats de l'industrie jeux vidéo, on pense forcément à Oscar. Et c'était les résultats de Nintendo il y a peu de temps. Et tu en as, en plus, bien sûr, de ce que tu fais sur Ludostrie, parce que j'ai parlé de Le Père et le Maire, mais ta vraie activité sur le net, c'est plutôt Ludostrie. Hein, c'est ce qui prend le plus de ton temps, je pense, avec les dossiers hyper complets. De loin.
Oui. C'est, en ce moment, il y a bataille avec aussi le fait d'écrire des livres. Mm-hmm. Mais sinon, c'est essentiellement Ludostrie, effectivement.
Et si vous voulez un aperçu de toutes les infos qu'on peut avoir sur Ludostrie, bah, il y a le compte Twitter d'Oscar Lemaire qui nous fait des threads hyper complets à chaque résultat. Et en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un petit love avec Nintendo quand même. Je les trouve encore plus passionnants. Peut-être que c'est moi, le love avec Nintendo.
Ah ben, mais c'est ceux qui donnent le plus d'informations, tout simplement. Donc forcément, c'est plus passionnant à suivre.
Et du coup, on a les résultats de Nintendo, donc on ne va pas vous assommer avec tous les chiffres. Hein. Il n'y a pas forcément tout qui est bon à détailler dans un podcast. Mais par contre, il y en a qui sont hyper intéressants. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de consoles vendues. Tu pourras me dire si toi, il y a d'autres chiffres qui sont importants à retenir parce que tu les comprends mieux que moi. Mais on atteint presque 115 millions de Switch vendus. On est d'accord que c'est assez exceptionnel, quoi.
Oui. Après, bon, le succès de la Switch n'est pas vraiment nouveau, mais effectivement, plus ça va et plus... Donc on se rapproche de la question du record, quoi, de jusqu'où elle va aller et est-ce qu'elle va être en mesure de faire tomber le record de la PS2. Et bon, après ça c'est un truc, moi, qui me fascine forcément, les questions des records, même si c'est pas très important en l'état. Hein. Je veux dire, la Switch est un succès, ça a été depuis longtemps. Et voilà, même.
Non, mais après, je suis comme toi, on peut se hyper. Enfin, c'est une sorte de course un petit peu artificielle, mais qui est quand même passionnante à suivre. Tu parles de record. On est en fait dans le top 5 des consoles les plus vendues, si je ne m'abuse. Il y a une sorte d'étape à 115, 120 pour la 3DS et la PlayStation 4. Et après on est autour des 150 millions. C'est pardon ?
La Game Boy et la PS4, la 3DS, elle est dépassée depuis longtemps.
C'est ça. Non, alors c'est laquelle parce qu'il y a deux DS qui sont autour de 150 millions, deux autour de 115, 120, et ensuite c'est la Switch.
En gros, les championnes, c'est la DS et la PS2 qui sont à 155 millions à peu près.
D'accord.
La DS est un petit peu en dessous de la PS2. Et oui, après il y a la Game Boy qui a 118 millions quelque chose et la PS4, mais ça, enfin, c'est clair que au prochain trimestre la Switch sera passée devant. L'enjeu, c'est surtout le record de la PS2, quoi, 155 millions, ce qui là pour le coup n'est pas garanti.
C'est sûr.
Enfin, en fait, tout va dépendre de quand sortira la Switch 2, quoi.
Mmh, ouais, ou la Super Switch. Moi, je suis sûr qu'elle s'appelle Super Switch. Mais bon, il m'est arrivé d'avoir tort parfois, mais moi, j'ai mes informations internes à moi-même qui me disent que ça sera la Super Switch ou la Switch 2. Bon, c'est plus probable.
La Switch
mais
oui. U.
Pardon ?
La Switch U.
Switch U. Certainement, je suis sûr qu'ils vont faire ça.
Le meilleur nom à donner si tu veux pas qu'elles se vendent.
Tu sais peut-être que finalement ils se sont dit qu'ils en avaient vendu assez, donc le nom serait pas mal pour ça. Mais oui, donc c'est quasiment acquis, elle va passer. Enfin, c'est acquis, c'est certain, elle va passer au-dessus de la Game Boy. Donc elle est d'ici 3 mois, elle sera la 3e console la plus vendue de l'histoire. On a une question dans la chatroom à laquelle tu réponds dans ton thread, puisque tu réponds à tout. C'est la quantité de Switch OLED dans les ventes aujourd'hui. Et si je retrouve le graphique, on est la Switch OLED est la console la plus vendue, enfin la Switch la plus vendue aujourd'hui. C'est intéressant d'ailleurs parce que Nintendo réussit en passant sur une console hybride, en fait, à faire ce qu'ils ont fait avec toutes leurs consoles portables, c'est de revendre des consoles à ceux qui en ont déjà. On ne sait pas du tout, je crois, combien de consoles OLED ou Lite ont été vendues à des utilisateurs qui avaient déjà une Switch. J'imagine qu'au moins, quoi, 20-30 millions ont été vendus à des utilisateurs qui en avaient déjà. Donc, est-ce que c'est... Enfin, on pourrait compter, en fait, si, en calculant avec les pourcentages. Ça fait beaucoup. Mais en fait, le génie avec Nintendo, c'est que oui, ils les revendent aux mêmes joueurs, mais du coup, ça fait du hand-me-down et on les file aux enfants, et donc ça fait des nouveaux joueurs convertis. Enfin, la technique est imparable. Et donc aujourd'hui...
Oui, en fait c'est juste pour détailler, en fait, là, c'est la stratégie qui soulève depuis un moment, c'est qu'en gros, leur objectif, c'est... Dans un foyer, il y a une Switch, et il faut que de passer de une Switch par foyer à une Switch par utilisateur. Mmh. Et c'est ce qu'ils essayent de viser, et oui, les nouvelles versions de Switch, enfin comme tu dis, hein, c'est exactement ce qu'ils visent, c'est que les parents veulent la nouvelle Switch OLED et ils filent l'ancienne Switch aux gamins, et voilà.
Oui, bah, ça fonctionne très bien. On est aujourd'hui, pour ce trimestre, donc qui s'est terminé en septembre, à 62% des ventes de Switch sont des Switch OLED, donc elle a très clairement conquis le marché. Mais des Switch normales, ils s'en vendent aussi, hein, presque 30% aujourd'hui. Et la Lite, par contre, représente moins des ventes avec seulement 10%. Est-ce qu'il y a des chiffres importants qu'il faudrait retenir ou intéressants ou pour toi qui plongent dans tous ces détails, Oscar ?
Moi je pense que ce qui est vachement intéressant, c'est la dynamique du moment, c'est-à-dire que la Switch comme on disait, l'ampleur de son succès est actée, mais maintenant sur la dernière période, le dernier trimestre précisément, on est quand même sur une baisse des ventes par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle est en train de décliner d'ailleurs. Elle a fait, alors c'est vraiment dans un mouchoir de poche, mais elle a fait un peu moins de ventes que la PS5 sur le trimestre, qui est une première. Et surtout, en fait, c'est les ventes de jeux, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que les ventes de Switch commencent à baisser, donc on se rapproche quand même de la fin de vie. Mais en même temps, le plus important, c'est les jeux, et là, pour le coup, les jeux, ça continue de progresser. Même si c'est variable selon les régions. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on regarde au Japon, les ventes de jeux... Alors, quand je dis ventes de jeux, c'est l'ensemble des jeux. Hein. C'est pas seulement les jeux Nintendo, c'est aussi les jeux tiers. Au Japon, c'est en hausse de presque 60% par rapport à l'année dernière. Mais aux États-Unis, enfin en Amérique, c'est en baisse de 10%. Mmh. Donc, on voit que, en tout cas en Amérique, il commence aussi à y avoir un déclin sur les ventes de jeux. Au Japon pas du tout, mais ça c'est un peu particulier, c'est parce qu'au Japon il y a eu Splatoon 3, quoi.
Ça, et Splatoon 3 d'ailleurs, on l'a vu, les ventes sont incroyables, ils ont fait sur Splatoon 3 dans son ensemble 8 millions de ventes de Splatoon en quoi, 3 semaines, mais sur ces 8 millions il y en a quoi, 5 ou 6 qui sont au Japon uniquement, c'est ça, je me trompe pas?
5 millions, ouais. C'est ouais, non, mais de toute façon, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on voyait déjà avant. C'est-à-dire que Splatoon, c'est essentiellement au Japon, en fait, c'est un vrai phénomène incroyable, quoi. Splatoon, c'est vraiment devenu une des licences les plus fortes du marché, quoi, tout simplement. Mais en Occident, c'est pas le cas. C'est une série qui marche bien, mais juste qui marche bien, quoi. C'est pas exceptionnel non plus. On a du mal à se rendre compte, mais au Japon, c'est vraiment, c'est devenu un truc plus fort que Pokémon, quoi.
Plus fort que Pokémon, tu dirais?
Oui, actuellement. Après, on verra, parce que les précommandes pour le prochain Pokémon, visiblement, sont assez incroyables au Japon, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est, ouais, ce Splatoon, là, c'est complètement dingue. Le niveau de popularité au Japon est, ouais. Encore une fois, hein, 5 millions, juste pour le Japon, en moins d'un mois, c'est complètement dingue.
C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est marrant, donc tu notes ce ralentissement des ventes de consoles, mais malgré la force des ventes de logiciels, enfin de jeux. Mais ça ramène ce que tu disais tout à l'heure en parlant d'une potentielle Switch 2 ou Switch Super ou Switch Mega. Parce qu'à un moment, si les ventes continuent à ralentir, on va dire encore pendant un an, ils vont bien finir par la sortir, cette nouvelle version. Donc, ce n'est plus une éventualité qui... Enfin, on ne sait jamais, ça se trouve, Noël, ça va être fou, et puis il va y avoir Breath of the Wild 2, enfin, Tears of the Kingdom, et ça va recommencer à renvoyer des millions et des millions, on ne sait jamais. Mais le jour où ça se confirmera, tu dis, ils ne vont pas attendre pour le plaisir de topper la liste de Wikipédia des meilleures consoles vendues du monde. À un moment, ils vont la sortir, quoi. Ils s'en foutent, c'est nous qui regardons cette liste, ils veulent juste vendre des consoles, quoi.
Oui, bah oui, voilà, ils veulent surtout vendre des jeux, quoi. Et il faut que leur écosystème soit en bonne santé. C'est tout simple, hein. C'est-à-dire à partir du moment où les ventes de jeux baissent, ça veut dire que le public commence, alors c'est vraiment le début, commence à se désintéresser de la console, et donc ça devient important de sortir une nouvelle console pour renouveler l'intérêt, quoi.
Mais du coup, là, on n'y est pas, parce que tu dis les ventes de jeux, ils baissent aux États-Unis. Oui, tu dis aux États-Unis.
Voilà, c'est-à-dire, je pense que là, actuellement, on est à peu près, on atteint à peu près le plateau en termes de popularité, en termes de ventes de jeux. Et que de toute façon, ça ne peut que baisser sur la Switch. Après, de toute manière, si on regarde sur la dernière année fiscale, déjà, c'était encore en progression les ventes de jeux, mais très légèrement, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, leur objectif annuel prévoit une baisse des ventes de jeux au niveau mondial, hein, sur l'ensemble de l'année par rapport à l'année dernière. Donc je pense que là, on est à peu près au plateau et on se dirige vers un déclin. Mais bon, déjà un déclin qui ne semble pas brutal, donc ça va, rien d'alarmant, quoi. C'est pas comme, si tu veux, la Wii, par exemple, tu vois, la Wii, d'un seul coup, le phénomène s'était arrêté et ça se vendait, ça se vendait plus, mais disons que ça a dégringolé très vite et très brutalement. Là, on se dirige vers un truc beaucoup plus soft, mais en même temps, tu prends l'exemple de Sony, ils ont cette habitude, à partir du moment où les ventes de jeux déclinent, en général, un an après, ils sortent leur nouvelle console. Et je pense que c'est la méthode optimale que devrait faire Nintendo. Et du coup, je pense que... moi, de mon point de vue, je pense que la fenêtre de sortie idéale, ça serait début 2024.
D'accord, ouais.
Mais à mon avis, à partir de fin 2023, ça devient logique de sortir une nouvelle Switch, quoi.
Ouais. Et quand tu dis une nouvelle Switch, tu veux dire un vrai nouveau modèle, pas juste un update du modèle existant.
Exactement, c'est marrant parce que pas une Switch Pro, quoi.
Ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai aussi que j'ai constaté quelque chose de manière complètement empirique, donc c'est peut-être lié à mon expérience, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à dire bon, la Switch graphiquement, elle monte ses limites, quoi. Elle commence à souffrir, même s'il y a évidemment plein de jeux, et en particulier les jeux Nintendo qui réussissent bien à l'exploiter, toujours. Le hardware qu'ils ont poussé au-delà de ces derniers retranchements commence à montrer ses limites, peut-être en particulier parce qu'on a soif de beaux graphismes avec la console current gen depuis 2 ans. Mais je pense que ça joue peut-être un petit peu aussi. Moi, je sais que personnellement, j'ai été peut-être un petit peu plus hésitant sur certains trucs parce que je me dis, bon, bah, je vais le prendre plutôt sur PC ou PlayStation parce que la Switch ne suit pas au niveau hardware. Ou peut-être que ça joue un peu de manière anecdotique.
Ouais, je l'ai vu, moi, sur Mario Rabbids 2, là, Sparks of Hope. Ouais, il y a quand même pas mal de petits soucis de ralentissement. Effectivement, je l'ai vécu. Pourtant, je me rappelle pas. Il y en avait peut-être sur le premier, maintenant que j'y pense, mais...
En tout cas, que ce soit le cas ou pas, parce qu'il y a toujours eu des ralentissements sur Switch, elle a toujours été en retrait par rapport aux autres, évidemment. Mais j'ai l'impression que les gens s'en plaignent un peu plus, quoi. Mais bon, écoutez...
Forcément, plus le temps passe. Mais après, le truc, c'est que, en même temps,
Plus Nintendo attend pour sortir une nouvelle console, et plus ils seront en mesure d'avoir un hardware plus performant, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, d'une certaine manière, ce qu'il faut, c'est un truc à peu près du niveau du Steam Deck, mais et sans la lourdeur et la taille du Steam Deck, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi un intérêt à attendre, à attendre le plus longtemps possible. Et, mais maintenant, enfin, fondamentalement, tout dépend de leurs équipes first party et de sur quoi elles travaillent, de quand ils seront prêts pour avoir un line-up efficace au lancement, quoi.
Oui, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas juste sortir la console. D'ailleurs, soyons honnêtes, a priori, la console, à quelques détails près, elle est déjà finie et dans les cartons, des départements R&D. Ils savent ce qu'elle va être, la prochaine console. Ils ont commencé à travailler dessus dès que la Switch a été lancée en 2017, c'était. Donc bon, je pense qu'elle est déjà finalisée. Peut-être qu'ils attendent tel ou tel processeur d'AMD qui... finalise le RDNA 3 en version super mobile, mais bon, ils savent à peu près ce que ça va être, je pense. Voilà pour donc les résultats. D'autres infos qui sont notables pour par rapport à ce qui a été annoncé dans les résultats, c'est aussi une petite news qui est arrivée un petit peu après, c'est l'alliance avec DNA pour renforcer la numérisation de l'activité de Nintendo, même s'ils sont moins mauvais qu'il y a quelques années. L'activité numérique de Nintendo, ils restent quand même, je dirais, pas qu'ils sont en retard, ils font des choix qui sont particuliers avec les friendcodes, machin, pour des questions de sécurité pour les enfants, je pense. Mais c'est intéressant de voir qu'ils travaillent, qu'ils continuent à le prendre au sérieux, je dirais. C'est Nintendo Systems qui a pour objectif, selon la traduction de Gamekult, renforcer la numérisation de l'activité de Nintendo. La co-entreprise se consacrera à la recherche et au développement, ainsi qu'à la création de services à valeur ajoutée, afin de renforcer la relation de Nintendo avec les consommateurs. Peut-être un système PlayStation Stars, qui est totalement incroyable du côté de Nintendo. Pourquoi tu ris? C'est très bien. Et oui, pardon. Vas-y.
Non, mais enfin, j'ai toujours pas compris exactement ce qu'était le PlayStation Stars.
Je crois que personne. Tu gagnes des stars. Moi, j'ai précommandé God of War et j'ai gagné 800 stars. Donc c'est bien. 800, c'est mieux. Ça fait pas mal. C'est mieux que 0 stars, par exemple. Tu vois. Donc j'étais content.
Oui, effectivement. Mais c'est moins que 900.
C'est pas faux. Donc il faudrait peut-être que je commande d'autres jeux. Maintenant, je suis encouragé. Puisqu'on parle de chiffres, toujours j'aime bien donner des chiffres de temps en temps pour donner une idée d'ordre de grandeur de ce que représentent les ventes dans l'industrie. Unpacking, à un an après sa sortie, est arrivé à 1 million de ventes. Vous savez, Unpacking, hein, c'est un jeu de l'année dernière vous vous souvenez de ce qu'est Unpacking. Dans A Plague Tale Requiem, donc qui vient de sortir, lui, a aussi atteint le million de joueurs. Alors, Plague Tale, il est dans le Game Pass. Donc, quand on parle d'un million de joueurs, c'est un petit peu différent. Mais il a atteint un million de joueurs aussi. Et puis, pendant ce temps-là, Call of Duty Modern Warfare 2 a entré $1 milliard 10 jours après sa sortie. Donc, voilà, c'est une légère différence d'ampleur. Mais Call of Duty, certainement un gros morceau. D'ailleurs, je veux qu'on parle du Indie World, mais j'aimerais bien avoir ton interprétation, Oscar, encore, sur ce qu'a dit Activision sur l'activité de Call of Duty l'année prochaine. J'ai pas réussi à comprendre s'ils disaient qu'il y aura du contenu premium l'année prochaine pour Call of Duty. Est-ce que ça veut dire un nouveau jeu en boîte vendu prix d'un jeu complet? Ou est-ce que, comme l'avait suggéré Bloomberg, il n'y aurait pas de Call of Duty l'année prochaine et ça sera une sorte d'extension pour Modern Warfare 2, ce qui pour le coup c'est le bon moment pour tabler sur l'extension vu qu'il s'est vendu comme des petits pains. Tu l'interprètes comment ce qu'ils ont dit? T'as vu cette nouvelle ou pas?
Je pense que ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ce qu'a expliqué Bloomberg à la base là dans cette histoire. Dès le moment où ils avaient commencé à annoncer qu'il y aurait pas de Call of Duty l'année prochaine, en fait, c'est simplement que en termes les studios ont besoin de plus de temps pour développer les jeux. Et que donc le nouveau Call of Duty qui était censé sortir l'année prochaine, il a été repoussé d'un an. et ils font cette extension à la place pour compenser. Et je pense que Activision essaye simplement de faire en sorte de le vendre comme un vrai jeu pour parce que de fait, ça, enfin, tu vois, un jeu se vend mieux qu'un DLC. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont essayer de faire en sorte de le faire passer pour un vrai Call of Duty, mais en termes de développement, c'est surtout ça le truc différent, c'est qu'on est sur un truc beaucoup plus beaucoup moins ambitieux, quoi. Je le comprends comme ça, quoi.
Ouais, mais ça sera un jeu après, l'extension, c'est un truc pour lequel on a besoin du jeu d'origine pour pouvoir y jouer. Le jeu, même s'il est peut-être moins cher, ou je sais pas si c'est un jeu en boîte entre guillemets. C'est un truc pour lequel on n'a pas besoin du jeu d'origine.
Écoute, moi je le vois un peu comme, tu sais, quand Sony a fait The Lost Legacy.
Ouais,
pour Uncharted. C'est, à la base, c'était un DLC d'Uncharted 4, puis finalement, ils en ont fait un truc standalone, mais vendu moins cher. Et tu vois, un peu pareil pour Spider-Man Miles Morales. Je pense plutôt que c'est dans cette approche-là, quoi.
Mais est-ce que Activision va vendre le jeu moins cher du coup que le...
C'est ça, c'est la grande question.
T'imagines
est-ce qu'ils vont le vendre moins cher ou est-ce qu'ils vont essayer de nous le refourguer au prix maximum? Enfin, mais en fait, c'est ça qui est... Le truc est un peu étrange parce que si tu prends typiquement l'exemple de... Alors Miles Morales s'en est très bien sorti, mais il a bénéficié du statut de jeu de lancement. Mais The Lost Legacy, il ne s'est pas super bien vendu, tu vois, à l'époque. Je pense que sur le long terme, à mon avis, il s'est très bien vendu, mais grâce aux promos, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, il y avait un côté, quand The Lost Legacy est sorti, tu vois, il avait sorti, je sais plus, à 40 balles, je crois, un truc du genre.
Quelque chose comme ça, ouais.
Et du coup, ça lui donnait une image de jeu un peu on s'en fout, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et je pense que c'est aussi ça le truc paradoxal, c'est que finalement, s'ils le mettent moins cher, bah. Ça donne une impression de truc au rabais, ce que c'est fondamentalement, mais ouais. Bon, après, ça peut aussi être de très bonne qualité. Enfin, en l'occurrence, The Lost Legacy était de très bonne qualité, quoi.
C'est sûr. Et d'ailleurs, ça sera intéressant à suivre parce que même si l'Union européenne a ouvert officiellement l'enquête sur l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft, la date de décision, ça sera quelque chose en mars. Donc, et on imagine que les autres autorités de la concurrence auront rendu leur réponse aussi au printemps, plus ou moins. Et moi, j'imagine, on le dit après chaque épisode où on parle de ça, on imagine qu'il y aura des concessions demandées, comme le fait de garantir la présence de Call of Duty ou peut-être de certains autres jeux sur toutes les plateformes, qu'à sur PlayStation, etc. Mais l'acquisition, on a du mal à imaginer qu'elle ne se fasse pas, si ces conditions sont acceptables pour Microsoft, ce qui semble être le cas. Et du coup... A priori, dès le prochain Call of Duty, et même avant, dès mars, avril, mai, juin, eh ben Activision Blizzard pourrait faire partie de Microsoft. Donc, comment est-ce qu'eux approcheront cette étape-là et cette question du Call of Duty, plus ou moins au rabais, moins cher, machin? C'est Phil Spencer qui va avoir des questions à répondre sur son bureau au boulot, quoi. Si tu étais Phil Spencer, toi, tu mettrais un Call of Duty extension qui n'est pas une extension à 40 balles ou 70 balles
pour tu sais, moi, je suis plutôt du côté des joueurs, donc je dirais qu'effectivement, si c'est un DLC, je mettrais plutôt
mais non,
à 40
euros. Mais non, mais tu leur rends pas service. Parce que du coup, ils pensent que ce n'est pas un vrai gros bon jeu, alors que ça se trouve, il est vachement bien, et ils s'en détourneront alors qu'ils joueraient, ils auraient énormément de plaisir à y jouer s'ils l'achetaient. Le mettre à 70 balles, c'est leur rendre service, Maïté.
Oui, c'est ça, tout à fait, le genre de réflexion de la part de personnes qui doivent avoir l'habitude d'acheter du jeu vidéo et de le consommer. Mais bah ouais, oui, non, pour moi, psychologiquement, ça me ferait mal de mettre 70 euros dans un DLC. Alors après, une fois, ça dépend combien de temps après la sortie de ton jeu principal tu le lances, c'est quoi le contenu, etc. Mais ouais, non, à titre très personnel, je ne mettrais pas 70 euros dans un DLC, à moins que le contenu m'apporte au moins le double de ce qu'il y avait dans le jeu principal.
Ah, ouais,
je sais pas, au moins autant.
Bon,
au moins
on autant, enverra ces suggestions à Phil Spencer, puisque Bobby Kotick risque de ne plus être... Enfin bon, on ne va pas jinxer les choses.
On n'aura pas besoin de leur envoyer, puisqu'ils écoutent le podcast. Patrick.
Voilà, ok, Phil... C'est maintenant ce qu'il faut faire. Cette Indie World Showcase d'hier, c'était pas foufou, hein? c'est que je sais pas si vous avez adoré ou pas, mais
j'ai bien aimé, moi.
Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que t'as aimé alors dans cette vidéo?
Je sais pas, l'ensemble. Je trouvais que il y avait pas mal de choses intéressantes dans le lot, quoi, tout simplement, quoi.
Il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà vues ailleurs. Il y avait quelques nouveautés, quelques-unes. Le truc que moi, je retiens, c'est Paper Grinder. Est-ce que c'est le truc vraiment... il semblerait que ça soit basé sur un jeu... Je vais encore ressortir Gamekult aujourd'hui. C'est plein de notes de Gamekult dans le doc des notes. C'est, comment il s'appelle le jeu sur lequel il est basé ? Drill Dozer, qui était un jeu Game Boy Advance, dont je n'ai jamais entendu parler. Mais c'est vraiment Game Freak, bizarre, quoi. Pardon ?
Drill Dozer, c'est un jeu Game Freak, c'est créateur de Pokémon.
Oh là là, d'accord, donc forcément, pédigré.
Ça a quand même l'air beaucoup plus... Enfin, ça fait beaucoup plus envie, quand même. Enfin, ça, on sent le truc... on sent que c'est bien maîtrisé, quoi.
Ouais, bah ça a l'air assez cool. C'est un peu bizarre. C'est une sorte de jeu de plateforme, sauf qu'on a une perceuse, c'est une sorte de foreuse qui nous permet d'évoluer dans le niveau un petit peu comme on veut, dans la direction qu'on veut, même sans tenir compte de la qui nous permet de défier un petit peu la gravité, de nous envoler quand on monte d'une partie où on est en train de creuser à travers la terre et qu'on remonte vers le haut, on a pris de la vitesse. Et puis, il faut donc explorer les niveaux, attraper des gemmes. Ça a l'air, c'est du pixel art, assez bien animé et assez plaisant à l'œil. C'est hyper original, c'est Devolver. C'est marrant parce que maintenant, quand je vois un jeu Devolver, je me dis, ah, Devolver, c'est plus ceux qui, à l'époque, faisaient que des trucs incroyables, enfin, n'éditaient que des trucs incroyables. Et à chaque fois, je me dis, ah mais non, en fait, ça a l'air cool. Donc là, ça a l'air assez sympa, original. Et donc, à voir. Mais c'est celui qui m'a marqué. Moi, il n'y a pas énormément d'autres choses qui m'ont marqué dans le Indie World Showcase. Ce Paper Grinder, c'est à peu près tout. Après, il y avait des jeux...
Ouais, t'as Dordogne et Blanc quand même. Enfin,
on les connaissait déjà, ceux-là.
Oui, c'est ça, on les connaissait déjà, mais bon, c'est...
Ouais, mais c'est pas tant la question de les trucs nouveaux ou pas, c'est juste que je trouve que l'ensemble du catalogue, enfin il y avait une bonne variété dans les trucs, et je trouve que dans l'ensemble, tu vois, c'est-à-dire même les jeux qui moi m'intéressaient pas du tout, ils ont l'air bien dans leur catégorie, tu vois. Je trouvais que ouais non, c'était enfin effectivement le c'est, rappelle-moi le nom là du Drill Dozer like là.
Paper Grinder.
Paper Grinder, voilà, effectivement, c'est moi aussi, c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil. Et d'ailleurs, au-delà du lien avec Drill Dozer, ça me fait penser, il y a aussi beaucoup une ambiance Gurren Lagann. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, la série animée. Ça fait vraiment penser dans ce délire de foreuse et tout. Et ouais, le truc a l'air vachement bien fait. Mais après, derrière, ouais, il y a quelques autres trucs aussi. Enfin, le Sports Story aussi, qui a l'air bien sympa.
Ouais, c'est pareil. Est-ce que c'est la suite de Golf Story ou pas ?
Ouais, c'est il me semble, quoi. C'est les mêmes développeurs.
Ouais.
Ça a l'air cool aussi, quoi.
Mais je trouve...
Il y avait quelques autres trucs comme ça.
Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a une impression globale de cosiness qui est dégagée de la sélection de jeux de cet Indie World Showcase. Enfin, je sais pas, moi, il y a quand même au moins, je dirais, entre 5 et 10 titres où tu les regardes et tu te sens bien, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est des propositions de jeux qui sont mignonnes, qui font du bien, c'est des couleurs un peu pastel et tout. Enfin, il y en a tout un tas. Il y a celui où on doit cuisiner des plats indiens, là. Il y a celui où on joue un espèce de petit panda roux qui plante des trucs. Enfin, je trouve qu'il y a... Moi, ça me parle, tu vois, c'est le genre de jeu indé. J'aime bien, je m'imagine devant ma petite cheminée que je n'ai pas, avec ma petite tasse de chocolat chaud, à jouer à ce genre de jeu. Il y a plein de petits jeux qu'on connaissait déjà et que ça fait plaisir de voir, mais j'en ai quand même découvert une paire où, je sais pas, je dis, il y a cette impression des jeux qui font du bien. Et je trouve que c'est chouette parce que, à titre personnel, c'est ce que j'attends de ce genre de scène indé. Et ils sont présents pour ça encore maintenant, et je trouve que... Ouais. C'est cool, quoi, ouais. C'est cool.
Et totalement, je te rejoins totalement là-dessus. T'as le bon exemple, je trouve, pour ça, c'est le jeu de rangement, là.
Oui.
Alors, un peu, attendez, je vais donner les noms. Je vais donner les noms quand même. Aka, c'est le jeu avec le petit panda roux, qui est un jeu d'exploration en 3D isométrique. Venba, c'est le jeu de cuisine indienne, qui est un jeu de cuisine, voilà, qui a l'air effectivement hyper cosy. Dordogne, c'est un jeu de... alors, il faut prendre des photos, écouter des sons, ce genre de choses, et c'est surtout des graphismes qui font penser à de la peinture...
à l'aquarelle.
À l'aquarelle, presque un peu impressionniste. Et le jeu de rangement qui est déjà sorti, c'est Little to the Left, qui est déjà sorti, dont tu commençais à parler à l'instant, Oscar, c'est ça ?
Oui,
c'est ça. Exactement, ouais. Little to the Left, ouais. Ouais, et puis l'autre aussi qui m'avait marqué, c'est l'histoire d'amour là qui se passe en Indonésie, je crois, ou aux Philippines.
C'est pas le truc avec le dodgeball. C'est encore autre chose.
Non, mais je vois de quoi tu parles. Attends, j'essaye de le retrouver. C'est pas Botany Manor.
Space
for the Unbound. Voilà, je l'ai retrouvé. Qui est en graphisme, on va dire 16 bits.
Ouais.
Qui est effectivement assez surprenant, quoi. C'est celui-là que tu voulais parler, hein, Oscar, c'est ça ?
Ouais, non, effectivement, ouais, non, c'était juste pour citer un autre exemple, ouais, d'un peu, ouais, c'est cette ambiance feel good, et puis, ouais, voilà, globalement, moi, je trouvais que... Puis c'est surtout, je trouve que les Indie World réussissent très bien là-dessus, sur vraiment la diversité, c'est-à-dire que t'as une diversité, c'est le principe, hein, Indie World, c'est t'as une diversité dans l'origine des studios, t'as plein de nationalités différentes représentées, mais aussi ouais dans les styles de jeu, même si forcément on est dans des trucs indés, donc dans des trucs qui ont une certaine ambition limitée, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de 2D, etc., mais il y a une bonne variété des genres, et je trouve que voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien, et ça fait du bien surtout avec toutes les conférences indées qu'on a eues ces derniers mois, où il y avait une surreprésentation des jeux de ferme.
Ouais, j'avoue.
C'est Harvest Moonlight, quoi. C'est
ouais. Là au moins, on ne vous a pas montré Harvestella et tous ces trucs, quoi.
Oui, de toute façon, c'est pas leur place en même temps dans un truc indé, mais là, enfin ouais, voilà, on a eu un peu de trucs de ferme, mais c'était beaucoup plus léger. Ça fait du bien d'avoir davantage de variété sans tomber trop là-dedans, quoi.
Bon, moi, tu vois, j'avais pas vu que A Little to the Left était déjà sorti, et je pense que je vais aller l'acheter tout de suite sur ma Switch.
Très bien. Bah, comme quoi, voilà, on a beau dire les histoires de graphisme et tout ça. Vous m'avez convaincu quand même, que vous m'avez convaincu sur cette Indie World, même si j'étais pas complètement sold, vendu sur le truc.
En fait, t'es déçu parce qu'il n'y avait pas Silksong.
Je fais pas partie des fans de Silksong. Je suis un de ces hérétiques.
Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc, oui.
Non, mais
pourtant, il y a le jeu Have a Nice Day qui ressemble vachement.
Mais ouais, à la limite, mais tu vois. Mais je dirais même Silksong, c'est devenu drôle. Donc oui, on l'attend juste parce que c'est marrant, même si on s'en fout du jeu. On est d'accord. Mais oui, il y a Have a Nice Day qui peut faire palliatif.
Et à mon avis, les développeurs doivent prier pour que Silksong arrive après eux, quoi.
Ouais, c'est sûr. Je sais pas s'ils ont déjà leur date de sortie, Have a Nice Death, mais oui, ils espèrent
si
que...
c'est mars, je
pense. Ouais, c'est bon, Silksong... Franchement, ça serait vraiment pas sympa de la part de... C'est quoi, c'est Tim Cherry je sais plus.
C'est ça.
Ouais, de la part de Tim Cherry, de le sortir genre en février ou la semaine d'avant, ça serait pas gentil, mais bon. Écoutez, voilà pour cet Indie Showcase, au final plutôt sympathique. Donc merci à vous de m'avoir sorti de mon cynisme et de ma torpeur. on va parler maintenant de gros jeux, et peut-être pas que de gros jeux d'ailleurs, Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission est entièrement ou en majorité, la majorité la plus importante, financée par vous, par les auditeurs qui choisissent de soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Sachez que cette émission n'existe pas si vous ne la soutenez pas et qu'elle existe pour tous ceux qui ne la soutiennent pas parce que certains d'entre vous choisissent de le faire. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous aimez bien la variété d'informations, d'invités qu'on vous propose, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu et soutenir et avoir en plus tout plein de bonus super sympathiques comme l'absence de pub, les contenus bonus, etc. etc. Donc, patreon.com/rdvjeu. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Et au nom de tous les auditeurs qui écoutent l'émission sans participer, bah merci parce que c'est grâce à vous que l'émission peut être disponible pour tout le monde.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et maintenant, les jeux auxquels on joue en ce moment. Oscar.
C'est à toi.
Oscar, tu je sais pas si peut-être qu'on va donner plutôt la parole.
Je savais pas qu'il y avait un terreau, là j'ai rien préparé.
Monsieur le maire au tableau, est-ce que tu as joué à autre chose que God of War ou c'est vraiment God of War que tu as...
Du coup, j'ai joué à God of War Ragnarok et j'ai joué à God of War Reboot de 2018, quoi. Et à part ça...
Pas grand-chose.
Non, à part de partie de Picross.
Voilà. Bon, écoute, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta perspective, parce qu'on a tous joué à God of War pour le coup, et Scarina a joué à quelques autres jeux aussi. Mais du coup, sur God of War, commençons par ça. Encore une fois, zéro spoiler. Hein. D'ailleurs, vous deux, vous avez joué très très peu, donc c'est vraiment les premières impressions. Moi j'ai joué un tout petit peu plus mais je suis même pas sûr de où j'en suis par rapport au spoiler qu'il faut pas spoiler mais du coup je ne dirai rien par rapport au God of War de 2018. Moi j'ai l'impression qu'on est 100% dans la continuité, au moins au début hein. On a déjà entendu qu'il y a plein de choses à pas spoiler machin, donc peut-être que ça change, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la continuité. Toi qui as rejoué à celui de 2018 juste avant, justement pour avoir une impression fraîche, quel est ton sentiment ?
Bah écoute, c'est difficile à dire, parce que comme tu dis, voilà, là, sur Ragnarok, j'en suis vraiment au tout début, donc... mais en tout cas, enfin oui, en enchaînant les deux, j'ai vraiment l'impression de ouais, que c'est le même jeu, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je dis pas ça, ça fait un peu méchant dit comme ça, mais oui, c'est la continuité vraiment logique. Et après, en même temps, justement, je trouve que sur le début, ça fonctionne très bien sur... enfin, je sais pas, est-ce que c'est spoiler que de dire vraiment ce qui se passe au tout début du premier affrontement, quoi.
On va parler... je vais dire aux gens, on va parler de la première heure. Donc, si vraiment vous voulez même pas savoir ce qui se passe dans la première heure du jeu... Vous pouvez...
Ça, alors moi je parle vraiment genre des 5 premières minutes, quoi.
Ouais, d'accord. Bon, écoute, 5 minutes.
Non, mais c'est-à-dire en fait le combat qu'on fait au début, pour moi c'est vraiment la c'est malin, parce que c'est la continuité vraiment du scénario du premier. C'est... Alors, je suis très mauvais pour retenir les noms, la sorcière.
Ah, tout, ah oui, ça, oui, c'est même pas vraiment un vrai combat, oui.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pas vraiment... Je parle d'un point de vue narratif, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Et ouais, tu vois, il y a un côté... oui, voilà, finalement, on revient tout de suite à... Tu vois, l'histoire du premier... Je vais essayer d'éviter de spoiler le premier, aussi, on sait jamais, mais disons que l'histoire du premier se termine un peu sur cette... comment dire ça, sur cette appréhension, enfin ce conflit naissant entre ces deux personnages qui du coup se reproduit direct dès le début et ça permet de te remettre directement dans l'ambiance comme si c'était la suite, alors même que ça se passe des années après, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça assez malin, et en même temps du coup c'est un truc qui permet tout de suite d'amener du grand spectacle avec un affrontement à coup de QTE et compagnie, quoi.
Ouais. Je suis assez d'accord, moi, mon impression, c'est ça aussi, c'est que tu disais c'est le même jeu avec raison, je veux dire, tu voulais préciser que c'était pas forcément quelque chose de péjoratif, mais je suis d'accord, tu lances God of War Ragnarok, t'as l'impression d'être à la, je sais rien moi, 40e heure de God of War 2018, complètement. Et alors, encore une fois, visiblement, il y a plein de choses qui changent. Enfin, plein de choses qui changent, on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on ne doit pas spoiler, donc peut-être que ça change un peu ou beaucoup à la suite. Et ça m'a en fait beaucoup rassuré d'entendre ça, parce que sinon, en lançant le jeu, je me serais dit « Ah ouais, c'est cool, mais enfin, c'est vraiment... » Pile la même chose. Pile la même chose. J'imagine, Eska, que c'est ton impression aussi ?
Oui, non, effectivement, moi, je vous rejoins complètement dans cet aspect de continuité. Après, moi, je sors de Plague Tale Requiem et j'avoue que, en fait, la prise en main de God of War juste après Plague Tale Requiem, elle est assez. Comment dire ? C'est-à-dire que tu sais tout de suite que t'as entre les mains un grand jeu, quoi. C'est tout est dans le détail. Enfin, que tu commences sur la page de menu. Alors déjà, on te propose effectivement un rappel de ce qui s'était passé dans le jeu d'avant, ce qui donne vraiment effectivement l'impression qu'on est dans une suite, mais comme si on regardait une série ou un film ou. Je trouve qu'on voit pas souvent ça sur le menu principal te proposer de revoir ce qui s'était passé avant. Tu vois, typiquement sur The Last of Us, je crois pas qu'il y avait ça sur The Last of Us 2. Et donc du coup, tout de suite, on comprend que le bien que ce soit à l'origine plutôt un jeu d'action, God of War, là, ce qui prime, c'est la narration, c'est l'histoire. Et tu le ressens immédiatement dès les premières minutes de jeu où effectivement, t'es repropulsé dans l'intrigue sans... on te prend pas, il y a pas de pincettes qui sont prises, quoi. T'es directement remis dedans, et je trouve qu'au niveau de la prise en main, de la manette, de tous les jeux qui sont faits sur les vibrations, les résistances au niveau des gâchettes, t'es plongé dedans tout de suite. Enfin, je sais pas, c'est impressionnant les effets de cadrage, de mise en scène, etc. Tout est vraiment dans le détail, et je me suis pris une grosse claque tout de suite en me disant, mais attends. Je sors de Plague Tale où je me disais, bon, c'est pas mal, j'ai quelques trucs à reprocher, on en parlera peut-être plus tard. Mmh. Et j'ai eu ce... tout de suite, immédiatement, tu dis, wow, ok, ça c'est du jeu vidéo en majuscule, tu vois.
Ouais, mais c'est marrant parce que quand on dit, c'est vraiment la suite de celui de 2018 et c'est le même jeu, moi, j'ai eu cette impression aussi, comme je le disais, et comme toi, ça m'a rappelé à quel point il était incroyable, celui de 2018. Au niveau du gameplay, parce que le gameplay est vraiment excellent et on te replonge petit à petit très intelligemment, ça s'intègre complètement dans le cheminement du jeu et de l'histoire, le fait qu'on te réintroduise les différents éléments de gameplay petit à petit. Et surtout, au niveau de la narration, on ressent au début... La lourdeur du cœur de Kratos qui est inquiet pour son fils. Et c'est pas caricatural. La relation entre lui et son fils sont pas du tout caricaturaux. Et tu pourrais te dire, ah voilà, teenager, machin. Mais c'est pas le teenager, c'est un teenager chiant. C'est un teenager avec lequel il n'arrive pas vraiment à connecter. Et le teenager, il veut être un bon fils, un bon machin, mais il y a des soucis, comme j'imagine, dans toutes les familles. Mais surtout, tu sens la lourdeur de l'esprit de Kratos qui est, comment dire, dans toute la mise en scène, tu sens que Kratos, bah, il va pas bien, quoi. Il est...
Mais effectivement, t'as des plans fixes sur le visage où pendant quelques secondes, t'as pas de dialogue, on le voit juste lui. Alors je sais pas comment ils s'y sont pris, j'imagine qu'ils ont fait de la mocap, je me suis pas renseignée là-dessus, mais où t'as vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment marqué. Alors peut-être que c'est mon état d'esprit du moment, pourquoi ça m'a marqué hier soir en lançant ce jeu là plus que je pense que j'ai vraiment un contraste fort avec ce que j'ai vu dans le Plague Tale juste avant, et qu'en fait les qualités du jeu me sautent d'autant plus aux yeux par rapport à ça, parce que de mémoire c'était déjà comme ça dans le premier God of War, qui c'est effectivement sûr. Comme tu l'as dit, était une leçon à beaucoup de points de vue.
Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu soulignes avec Plague Tale, parce que finalement et en même temps, enfin, c'est très logique, je trouve, parce que effectivement ils ont, alors c'est pas seulement de la motion capture, c'est de la performance capture, c'est-à-dire la technologie qui mesure vraiment les mouvements de l'intégralité du visage des acteurs, et ouais, forcément, ils ont les moyens. Je pense qu'il y a déjà une question de moyens, puis il y a une question d'expérience. Forcément, ils ont l'expérience du précédent God of War, mais même avant ça, je veux dire, c'est vraiment un studio. Enfin, ça rentre dans la même catégorie que les Naughty Dog ou que les Rockstar. C'est sûr qu'on est sur des grosses productions qui d'une certaine manière sont privilégiées par rapport aux autres, que c'est soit en termes d'expérience ou en termes de moyens, pour faire un pour vraiment nous donner cette impression d'être devant un film et que ça marche vraiment bien. Et finalement, la comparaison avec A Plague Tale, forcément, c'est parce que A Plague Tale, finalement, il essaye de faire quelque chose de similaire. Enfin, j'ai pas fait A Plague Tale, mais moi, de ce que j'en ai compris, c'est un jeu qui essaye vraiment d'aller un peu sur le même terrain que les jeux Sony, quoi. Je sais qu'il a été beaucoup comparé avec The Last of Us, surtout.
Ouais, il y a une influence de Naughty Dog qui est évidente.
Et voilà, et tu sens que ouais, il essaye de faire la même chose, mais forcément Asobo, ils ont beaucoup moins de moyens, ils ont moins d'expérience aussi, et moi, de ce que j'en ai compris sur A Plague Tale, ils ont réussi un tour de force avec les moyens qu'ils ont. Ils ont réussi à se rapprocher un peu de ce niveau-là. Mais forcément, si tu les compares l'un à l'autre direct, ça doit mettre un peu plus en évidence qu'ils sont quand même pas au même niveau. Et c'est logique, quoi, d'une certaine manière.
C'est d'autant plus impressionnant ce qu'a réussi Asobo avec ses moyens beaucoup plus limités, évidemment. Et du coup, c'est une performance qui est, au-delà du fait de la saluer, mais qui est impressionnante. Mais quand tu regardes les trucs qui ont vraiment des moyens, tu fais « Ah ouais, ok ». Et quand on dit les trucs qui ont vraiment des moyens...
C'est ça qui est vachement cruel dans cette industrie. Ouais. C'est-à-dire que... Ouais. Moi, j'ai l'impression que la performance d'Asobo, elle est encore plus impressionnante, étant donné le niveau où ils sont par rapport à un studio comme Santa Monica de Sony, qui ont un chèque en blanc et qui ont plus d'expérience en la matière. Mais forcément, du point de vue du joueur, bah, le résultat final, il est que tu compares les deux, tu vois bien qu'il y en a un qui réussit beaucoup mieux cette quête de t'immerger dans, comme si c'était un film, alors que bah, il joue pas avec les mêmes armes, quoi.
Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que on dit c'est vachement mieux réussi sur God of War ou sur The Last of Us, mais il faut rappeler, parce que c'est important à comprendre dans la conversation, des studios qui font du travail comme ça, il y en a quoi, 4 dans le monde, quoi. C'est genre...
C'est clair.
On va étendre un petit peu, peut-être, qu'on peut rajouter, je sais pas, Sucker Punch, évidemment, Rockstar et Naughty Dog et Santa Monica. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est genre 5 à 10 studios max.
Ouais, non, clairement, ouais. Et encore, c'est... enfin, moi, je serais plus... Enfin, tu vois, je pense que Sucker Punch n'est pas à ce niveau-là encore, tu vois.
Ouais, non, je suis d'accord.
Peut-être qu'ils le seront, tu vois, mais... Mais ouais,
il y a Naughty Dog, Santa Monica, à la limite CD Projekt, si tu veux l'inclure, et encore au lancement, c'était... CD Projekt, pardon. Rockstar, c'est sûr. Mais ce genre d'ambition... Ce genre d'ambition, il y a, ouais, 5 studios dans le monde qui peuvent se les permettre. Et c'est parce qu'ils
ouais,
ont...
Non, c'est clair.
Pour majorité, un chef en blanc.
Après, j'essayais pas du tout de comparer, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et je...
Enfin, non, mais je crois que la comparaison, comme le disait Oscar, la comparaison est complètement légitime.
C'est
intéressant, quoi.
J'essayais de m'expliquer pourquoi est-ce que je m'étais pris une baffe pareille, alors que c'était pas forcément justifié à ce point-là. Et effectivement, je pense que la comparaison... Et comme tu dis, c'est cruel, parce que moi, je...
C'est ça, c'est cruel, mais en même temps, c'est bien de le rappeler, quoi. C'est bien de se rendre compte d'à quel point, on est sur un niveau incroyable, quoi, ouais, dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, comme dit Patrick, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça, quoi.
Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut admettre que Sony réussit cette performance, et je parle des studios Sony, je les mets un petit peu tous dans le même groupe, mais... Sur ce niveau-là, on parle effectivement de Naughty Dog, enfin même pas de Naughty Dog, à la limite c'est The Last of Us 2 et God of War, et voilà, il y a genre 5 jeux. Mais ils ont réussi à faire ça, les jeux sortent, je le mentionnais un tout petit peu dans l'épisode précédent, mais les jeux sont dispo en review 2 semaines avant la sortie, la review, ou 3 semaines avant, la review sort une semaine avant le jeu. Le jeu n'a pas de bugs, ou très très peu, il est entièrement jouable, et dans cette industrie où c'est rarement le cas, je pense que c'est important à signaler aussi, et du coup le jeu, il est, avec un budget de quadruple A et de complexité quadruple A, ils sont aussi bien finis qu'un jeu Nintendo. Ce qui est... C'est-à-dire que les jeux Nintendo, ils sortent, bah voilà, il n'y a pas de bug, ils sont bien, bien finis, ils arrivent et on peut le mettre dans la console et jouer, quoi. Et la chose aussi, pour reparler un petit peu du jeu et du truc en lui-même, le gameplay est au niveau des énigmes, au niveau du combat, au niveau de tout, même des systèmes d'armure, d'upgrade, c'est tout pareil. Mais malgré tout, ça fonctionne. Et je dois dire que j'adore la manière dont il traite les personnages. Bon, on peut le dire, ils rencontrent des personnages du panthéon nordique, évidemment. La manière dont ils sont dépeints, je trouve hyper réussi, et c'est pas facile. C'est pas facile.
Il y a un côté très humaniste dans la vision, enfin.
Ouais, très humain. Et c'est pas.
Oui.
Comment dire ? L'exemple qu'on peut prendre, c'est celui de Thor, qu'on a vu en illustration et dont on avait déjà parlé, qui n'est pas du tout le Thor du MCU. C'est un mec qui est... qui a une, un...
ça dépend à quel moment du MCU. Mais...
Ouais. C'est pas faux. Mais c'est... Ça, et même au-delà des images qu'on a vues, quand on le rencontre vraiment dans le jeu, effectivement, il est hyper réussi, quoi. Hyper réussi, et pas du tout ce qu'on attend.
Oui, je voulais dire naturaliste et pas humaniste tout à l'heure.
Non, c'est naturel et c'est réussi, c'est pas ce qu'on attend. Et pourtant, c'est quand même, tu sens que le fond du truc est fidèle à ce que tu imagines d'un panthéon. À vrai dire, c'est peut-être pas tout à fait le Thor de la mythologie nordique, mais par contre, c'est un dieu de l'univers de Ragnarok, enfin de God of War. Et ça, c'est ce qui fait le sel du truc. Parce qu'au-delà, le gameplay est super cool, le système semi-monde ouvert est réussi, mais c'est tous ces éléments-là des personnages et de la narration et de l'humanisation des personnages qu'on va rencontrer, et de la performance d'acteur et de l'écriture qui est super bonne. Pas de l'écriture genre on fait des blagues qui sont réussies, de l'écriture, de la psychologie des personnages qui fonctionne. Et c'est ça qui amène le truc, pour moi en tout cas, c'est ça que j'apprécie dans ces jeux-là, ça amène le truc un cran au-dessus de tout le reste, quoi. Pardon, Oscar.
Oui, non, mais en fait, je vais pas me prononcer sur l'écriture, parce que de toute façon, j'en ai pas vu assez, quoi. Mais oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis sur... En fait, je trouve que c'est la bonne approche de comment utiliser la mythologie, c'est-à-dire que Bon, je ne connais pas vraiment la mythologie nordique, les détails, etc. Mais je pense que il y a une logique, et finalement qui est aussi la même que la logique de Marvel. C'est-à-dire que tu as une mythologie, tu utilises les grandes lignes, mais tu en fais un peu ce que tu veux derrière, quoi.
Ouais.
Et tu racontes ce que tu as envie de raconter. Et de toute façon, God of War, il y a cette logique qui était déjà présente quand c'était dans la mythologie grecque, qui est de montrer que tous les dieux, quasiment tous les dieux, c'est tous des ordures, quoi. Mmh. Et de jouer là-dessus. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que les premiers God of War, ils faisaient ça sans vraiment... je pense que c'était juste sur un délire de voilà, on veut de la violence, alors on va faire un truc où tout le monde est violent, où tout le monde c'est tous des ordures, etc. Et c'était finalement un peu idiot comme réflexion. Et là, ça essaye de enfin en tout cas le God of War de 2018, déjà essayer de rendre ça un peu plus intéressant. Et tout cet aspect d'un Kratos qui souffre, c'est un Kratos qui est rongé par la culpabilité, quoi, parce que lui-même est une ordure, finalement. Donc il y a ce truc assez intéressant de jouer là-dessus avec ce personnage qui correspondait à une sorte d'archétype de comment on faisait les héros de jeux vidéo dans les années 90, 2000, début 2000, qui était vraiment pas malin comme approche, et finalement d'essayer de se poser des questions derrière. Et je trouve que le God of War de 2018 n'avait pas forcément fait un truc non plus incroyable dans cette optique-là, mais il allait dans la bonne direction. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner avec cet épisode et de comment va être vraiment l'écriture. Et j'espère que ça va être à la hauteur de ce parti
pris. De nos espoirs.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance du grand public à vouloir de l'écriture un peu plus approfondie, un peu plus intelligente, un peu plus dans les guerres de pouvoir. On le voit, tu vois, avec le succès de séries comme Game of Thrones, avant de parler du bouquin même. Je pense que c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ils ne se contentent plus de conflits un peu trop simplistes. Et du coup, ça tire aussi vers le haut les écritures de... Je pense de titres qui baignent comme ça dans la mythologie, où c'est un vivier de conflits familiaux et politiques hyper intéressants à exploiter. Et tant mieux pour nous, quoi.
C'est sûr qu'on est un petit peu là-dedans dans ce God of War. Et je trouve qu'il est presque même plus Last of Usien que le premier. L'accent sur les personnages et sur les conflits, les difficultés, les challenges qu'il rencontre et a l'air encore plus important. Moi, je suis.
Bah, puis je trouve que t'as un côté. Enfin, ne serait-ce que la première heure de jeu, tu t'en prends plein la gueule en permanence et ton personnage est sous une menace permanente. Tu ne peux pas souffler deux minutes. Il y a vraiment une ambiance très lourde qui pèse où tu sens que les personnages sont en danger. Et effectivement, ça, je trouve que ça rejoint cette ambiance de Last of Usienne, comme tu dis, même si le danger n'est pas de la même nature. Mais là, il est... si tu veux, je trouve qu'il y a... Là où c'est intéressant, c'est que dans Last of Us, les personnages sont humains et ils sont face à une force de la nature détraquée qui est plus forte qu'elle et à des humains qui sont malheureusement assez pervers pour les mettre en danger aussi. Là, on a un Kratos qui soulève des troncs à bout de bras et malgré ça, qui trouve plus fort que lui. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as une ambivalence entre l'impression de puissance de ton personnage et d'un seul coup, tu te retrouves à poil devant un truc qui est encore plus énorme. Et tu sais que ça va être de pire en pire et que ça va toujours aller plus loin et dans le sensationnel. C'est du grand spectacle.
On en reparlera quand on aura joué un petit peu plus. Peut-être qu'à un moment, on fera en fonction de notre amour pour le jeu ou pas. Peut-être qu'on fera un petit spoiler cast pour God of War. On verra. À part ça, donc, tu as aussi... Nous, on était sur God of War surtout avec Oscar. Toi, tu as joué à A Plague Tale Requiem et à Mario plus Rabbids Sparks of Hope. C'est ça, hein, le deuxième. Tu voulais un petit peu parler de Plague Tale. Tu nous en dis un petit peu plus et puis sur Mario.
Oui, très rapidement. Mario Rabbids 2, j'en parlerai pas plus que ça parce que
D'accord.
j'ai... Ouais.
Non, j'allais dire qu'on en a déjà parlé de Requiem dans deux ou trois épisodes avec différentes personnes, donc...
Ouais, bah écoute, moi au global, donc ouais, pour évacuer Mario Rabbids 2, c'est la suite du 1. Je trouve que la DA est affreusement moche. Je sais pas pourquoi, mais il y a du fluo partout. Ça m'a agressé visuellement au début.
Une fille des années 80, c'est ça le problème.
Mais là, je trouve que c'est too much, quoi. Enfin bref. Mais à part ça, même sensation que dans le 1. Je m'amuse bien. J'ai envie de tout faire. Je suis en mode complétionniste, donc je pense que ça va me plaire. On en reparlera quand je l'aurai fini.
Ah, mais donc t'aimes beaucoup, d'accord. J'ai cru que tu...
Oui, ouais, je m'amuse. Alors j'ai trouvé... Enfin, je te dis, au début, j'ai trouvé ça affreux visuellement, mais bon, on verra ce que ça donne. Mais ouais, non, c'est toujours aussi fun, c'est bien fait. Après, pour l'instant, j'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose de plus que le premier, donc on verra. Mais ça,
bon,
voilà.
Continue.
Donc, je parlerai quand j'aurai fini. Comme ça c'est évacué. Et Plague Tale. Alors ouais, je suis assez partagée. Effectivement, tu sens, enfin voilà, la maîtrise qui est en train d'acquérir le studio. À tout point de vue, qu'elle soit technique ou narrative, tu sens que voilà, ils ont cette, on va dire, ce savoir-faire qui est de mieux en mieux. C'est indubitable visuellement. Enfin, tu te prends une claque. Je sais pas comment ils ont réussi à exploiter ce moteur, etc. Mais enfin voilà, c'est beau. À en rester baba devant certains paysages. Pour moi, c'est la plus grosse force de ce jeu-là, c'est la beauté visuelle, mais qui contraste, je trouve, avec une certaine faiblesse au niveau des animations, notamment des animations de visage. Je trouve que les animations au niveau des expressions de visage, par moments, ça m'a un petit peu fait bloquer, genre des moments où les personnages sont tristes ou en colère et ils ont un regard complètement vide, il n'y a pas de jeu au niveau des sourcils, des trucs. C'est très bizarre. Il y a des scènes où c'est super bien fait.
J'imagine qu'ils n'ont pas les moyens de faire, comme en parlait Oscar, le performance capture, qui est encore plus que du motion capture. Ou peut-être que ça a dû être réservé à certaines scènes, ou peut-être qu'ils n'en ont pas pu. Ils n'ont pas pu en faire du
tout. C'est possible.
Question de moyens.
Mais du coup. C'est ça qui est un peu étrange, et j'ai pas envie de dire de mal de ce jeu parce que je pense tout le bien du monde de ce studio et de ces deux jeux qui sont formidables. Mais c'est vrai que du coup, t'as une espèce de... Il y a un contraste qui est d'autant plus frappant entre les moments qui sont vraiment sublimes visuellement et les moments qui du coup sont un peu plus faibles. Ça tape un petit peu, quoi. Donc ça m'a un peu déstabilisé. Après, au niveau du gameplay, bon, c'est la même chose que le premier. Il n'y a pas franchement d'ajout marquant, j'ai trouvé, au niveau du gameplay. Par contre, effectivement, alors vous en avez déjà sûrement parlé, mais le côté on referme toujours les portes pour terminer une séquence, on va dire que il y a un manque de transparence au niveau du gameplay pur. T'arrives dans une scène, tu sais exactement ce qui va se passer parce que t'as des buissons à droite, un mur à gauche, et tu te dis ah ok, là il va y avoir un combat.
Là c'est une arène, bon. Ok, très bien.
Là, c'est une arène. C'est tout. C'est une faiblesse du jeu, je pense, qu'on arrive à accepter à travers laquelle on arrive à passer. Je pense que ça tient aussi de ce côté. Ben, ça reste du jeu AA, donc tu peux pas non plus. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'ils s'amélioreront sur les prochains titres. C'est pas très grave. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ce qui m'avait beaucoup frustré dans le 1, c'était certains combats de boss que je trouvais mal équilibrés. Enfin, moi, le boss final m'avait fait tomber la manette des mains. J'avais été voir la fin sur YouTube parce que je trouvais insupportable. Ah. Oui, non, je n'y arrivais pas. Je ratais en boucle. J'ai fini par aller voir le... Donc, voilà. Et ça, c'est un écueil qu'il n'y a pas dans le 2.
Il faut apprendre à jouer aux jeux vidéo.
Oui, c'est ça. Après, c'est une question de talent. Et j'avais un petit peu peur pour le 2 parce que, notamment dans les premières heures de jeu, t'as des boss en arène et des trucs. Et je me suis dit, ça y est, on retombe dedans, ça va me saouler. Et en fait, non. Voilà, il y a un combat ou deux comme ça qui m'ont un peu fait peur. Et au final, j'ai trouvé que dans la continuité du jeu, ça s'était bien passé. J'ai pas joué en difficulté maximale, loin de là. Donc là-dessus, j'ai plutôt passé un bon moment. Enfin voilà, après, la musique d'Olivier de Rivière, elle est toujours. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, j'adore ce compositeur. Donc voilà. Et donc, au global, j'ai cette impression plutôt positive de j'ai passé un bon moment. Les écueils du 1, je ne les ai pas retrouvés dans le 2, ou en tout cas pas aussi fort. Donc il y a vraiment une belle progression, je trouve, là-dedans. Visuellement, c'est magnifique. L'histoire, elle est super chouette, mais je reste un petit peu sur ma faim parce qu'effectivement il y a ce contraste, cette ambivalence un peu présente qui laisse un goût un peu amer. Et puis toujours, je trouve, le côté un personnage qui moralement combat contre lui-même pour éviter la violence, mais il y a des moments où le jeu ne te laisse pas le choix de la violence. Et ça, je pense que c'est le plus gros défaut du titre, c'est que tu, en fait, on te laisse l'illusion du choix et que tu n'as pas. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que ce serait trop bien si on pouvait faire le jeu de A à Z sans tuer personne, et malheureusement c'est pas le cas. Okay. Voilà.
Bon, écoute, ça a l'air quand même là encore plutôt positif. Le jeu est sur le Game Pass, donc si vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez aller l'essayer, ça vous coûte rien de plus. Merci Eska. On va maintenant du coup passer à la partie où on vous parle des quelques news restantes, le reste de l'actualité. On a quelques infos sur des trucs PC qui vont plaire aux PCistes, et puis quelques petites infos en plus. D'abord, AMD a annoncé ses nouvelles cartes graphiques, les les RX 7900 XTX qui coûtent 1 000 $ et RX 7900 XT pour 900 $. En gros, c'est les processeurs avec l'architecture RDNA 3. Ils arrivent mi-décembre. Donc, si vous attendez pour avoir une nouvelle, pour acheter une nouvelle carte graphique, peut-être qu'AMD donnera du fil à retordre à Nvidia. Et puis, niveau PC, le PC Gaming Show, vous savez, ce truc qui se passe pendant l'E3 et qui est généralement plutôt très chiant, eh ben, ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez de trucs plutôt très chiants en novembre, et ils vont refaire un PC Gaming Show en novembre. Je ne sais pas comment... Je veux pas être, un petit peu... Je veux pas être méchant, mais pourquoi ? Je ne sais pas. non, mais si, enfin si, c'est pourquoi pas mettre en avant le jeu PC Gaming. Le truc, c'est que pendant l'E3, ils ont le problème que tous les développeurs, les développeurs qui le peuvent, vont préférer aller chez les plus gros, dans les plus grosses présentations. Ouais. Voilà, les plus grosses confs. Peut-être que là, vu qu'il n'y a que le Game Awards en décembre, là, ils auront un petit peu plus de latitude. Peut-être qu'ils auront plus de trucs intéressants à montrer. C'est le 17 novembre, donc la semaine prochaine.
Est-ce que tu crois qu'il y a une grosse annonce surprise qui aurait pu motiver la mise en place de la date et on va tous tomber de nos chaises ou...
Alors, je pense que oui, il pourrait y en avoir plusieurs. Le truc, c'est que, je pense encore une fois, les vrais gros, ils préféreront attendre le Game Awards, les Game Awards pour... Pardon ?
Bah dis-le si on t'ennuie.
J'étais au ciné hier pour la première fois depuis genre juin, tu vois, donc je suis couché tard. On parle d'ailleurs de Wakanda Forever dans Super Laser Punch, qu'on enregistre demain matin. Donc, si vous voulez mon avis sur le film, vous pouvez écouter Super Laser Punch. Qu'est-ce que je disais ? Je t'aurais dit comme ça, Diablo 3, peut-être ?
T'es en train de nous parler de l'annonce d'Half-Life 3.
Je suis sûr qu'ils iraient au PC Gaming Show, tu vois. J'aime beaucoup PC Gamer, hein, ce site consacré qui est très sympa. Je les suis sur Twitter, même, c'est dire à quel point je les aime. Mais oui, Valve va aller chez eux pour annoncer Half-Life 3, c'est sûr. Non, mais il y aura peut-être des trucs. Je pense qu'ils ont plus, je le dirais comme ça, ils ont plus le champ libre que pendant l'E3. Donc, vous n'avez pas l'air convaincu.
Bah, réponse le 17 novembre. Là, c'est un peu.
Réponse la semaine prochaine.
Non, mais je pense que, comme d'habitude, ça va être une conférence très chiante de 2 heures où, dans le lot, il y aura quelques trucs bien, forcément. Quoi. Mais bon.
Mmh. Ouais, ah bah donc, ça sera pas comme d'habitude.
Des grosses exclus.
Bah, si, il y a à chaque fois quand même, tu arrives toujours à trouver des trucs bien dans la conf du PC Gaming Show.
Le PC Gaming Show.
C'est juste que. C'est juste que vaut mieux regarder le résumé le lendemain avec les 2-3 trailers intéressants plutôt que de se farcir la conf, quoi.
Se farcir la conf, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'au final, ils finissent par inviter les développeurs sur le canapé pour parler de leur jeu pendant 10 minutes. Donc, si le jeu t'intéresse beaucoup, c'est cool. Mais si le jeu t'intéresse pas, comme il y a rarement un jeu qui t'intéresse suffisamment pour écouter les développeurs en parler pendant 10 minutes, sur 2 heures, il y en a peut-être un ou deux effectivement qui vont te plaire.
Non, mais même, c'est pas un format intéressant pour faire discuter les développeurs, je trouve. Ouais. Ils viennent juste faire leur promo, ils sortent des banalités. C'est pas là que tu vas avoir des réflexions profondes comme dans le cadre d'une vraie interview sur une demi-heure ou une heure. Voilà.
Je suis d'accord. C'est pas des conférences de la GDC où tu vas apprendre des trucs intéressants sur le développement. Oui, c'est sûr. Bon, des choses plus intéressantes du coup. Call of Duty Warzone 2 arrive lui aussi bientôt. Et le truc intéressant, c'est qu'il va pas remplacer Warzone 1. Warzone 1 va être relancé vers la fin du mois. Il va être en pause là pour maintenance, machin. Il va être relancé vers la fin du mois sous le nom de Warzone, comment il l'appelle, Caldera. Et je suspecte Activision d'avoir fait ça parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec toutes les skins qui ont été achetées sur le 1. Et comme elles ne sont pas transférées dans le 2, et bah ils ont dit, vous les laissez sur le 1. On laisse le 1 jusqu'à ce que vous laissez les serveurs. De toute façon, tout le monde va passer sur le 2, ça ne coûtera pas cher. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, il y a un mode de contrôle supplémentaire dans Street Fighter 6 qui a été annoncé. Vous savez qu'il y a le mode classique, qui est le mode de contrôle classique, et puis le mode moderne, qui vous permet de déclencher des coups spéciaux juste en appuyant sur un bouton et une direction. Donc un mode un peu plus facile. Il y a un mode encore plus facile, qui s'appelle le mode dynamique. Et le mode dynamique, c'est que vous appuyez sur tous les boutons et l'IA de l'ordinateur va décider quel coup faire, à quel moment. Donc, vous pourrez faire des trucs incroyables, même si vous button-mâchez comme un malade. Et là, vous me dites, mais attends, mais c'est pas juste. Moi, je veux pas faire des combats où j'essaye de faire des trucs et avoir quelqu'un qui est en face et qui fait qu'appuyer sur tous les boutons. Eh bien, rassurez-vous, ce mode ne sera disponible que en mode local. Donc, si vous êtes avec des potes, vous pouvez faire ça. Si vous êtes en mode story ou ce genre de choses, vous pouvez faire ça, mais pas en ligne. Et je trouve que c'est au-delà de l'annonce anecdotique. Moi, je trouve que c'est vraiment une annonce assez cool parce que ça ouvre encore plus le plaisir du jeu de combat aux débutants qui n'ont jamais joué. Sur les jeux en 3D comme Tekken, tu peux toujours prendre un perso où tu prends Eddie, t'appuies sur les pieds, tu fais clac, 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 clac sur les pieds, ça va faire des trucs cool. Sur les jeux en 2D, il n'y a pas vraiment ça. Donc là, c'est un moyen de faire ça, de le proposer aux joueurs qui débutent, juste pour qu'ils s'amusent, tout en ne pénalisant pas les joueurs en ligne, parce que de toute façon, ça ne sera pas accessible. J'ai trouvé l'annonce plutôt cool. Allez, on continue. Est-ce que vous avez vu cette annonce de la FIFA qui annonce les nouveaux jeux qu'ils ont lancés, enfin sur lesquels ils vont se lancer quand le partenariat avec EA se termine, c'est-à-dire maintenant? J'arrive pas. Qui est
mais là, pour le coup, je comprends que tu bailles avec des sujets pareils.
C'est incroyable. Incroyable. Le truc, c'est... Alors, ils ont annoncé 4 jeux. Un jeu 4 contre 4 contrôlé par IA où les players, les joueurs vont avoir du fun et des moments tactiques. C'est ça qu'ils décrivent dans le jeu. Et on peut coacher et avoir des équipes contrôlées par IA. OK, pourquoi pas. Très bien, il y a des power-up et du training, machin. Il y a un jeu qui s'appelle Upland Me, qui est le FIFA World Cup Qatar 2022 dans le métaverse de l'Upland. Upland, c'est la plus grosse... le plus gros métavers basé sur la blockchain, qui est mappé sur le vrai monde, et on peut acheter et vendre des propriétés virtuelles et des assets, des assets, oui, virtuels, comme des vidéos des meilleurs moments du tournoi. Donc, on va pouvoir acheter les meilleurs moments du tournoi en NFT dans ce métavers virtuel basé sur la blockchain, si vous... OK. Un autre jeu qui s'appelle Match Day, qui est un... je ne comprends même pas ce qu'ils essayent de dire. Un « highly engaging casual social prediction game based on football cards ». Donc, on a des cartes de football qui est hautement social et qui est un jeu hautement social de prédiction. Qu'est-ce que... Mais il y a un jeu de football dans tout ça ou pas, en fait ? Bah, la réponse, c'est non.
Il y a des jeux pour faire de l'argent.
Mais c'est même pas pour faire de l'argent. C'est que, enfin, qu'est-ce qui... FigDeal, c'est un fan engagement mobile application that takes fandom into a new dimension.
Mais non, ça ne veut rien dire.
C'est-à-dire que j'arrive même pas à comprendre les descriptions de ces jeux. On dit dans la chatroom Camoulox, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je comprends pas.
C'est digne de tout ce qu'on entend de
la FIFA
pour les oui pour la FIFA mais pour les jeux blockchain aussi depuis des mois quoi tu vois c'est un peu toujours cette ambiance t'as l'impression que c'est des gens qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo qui font ça quoi tu vois je veux dire
Est-ce qu'on peut discuter du projet de NFT de Ubisoft?
Mais là, on est à des années-lumière de... Enfin bon, bref, c'est complètement lunaire. Donc, si vous espériez avoir un jeu de football officiel FIFA, je crois que faudra attendre encore. Une annonce qui ne m'aurait pas fait lever plus qu'un sourcil, si ce n'est le pedigree du studio. Capcom va travailler avec Timmy, c'est Timmy, hein, je ne dis pas de bêtises, Timmy Studio pour développer un jeu Monster Hunter mobile. Timmy, vous ne les connaissez peut-être pas, mais c'est un gros studio de jeux mobiles et ils ont fait notamment Pokémon Unite. Et Pokémon Unite, il est vachement bien. Alors, ça fait très jeu mobile, mais il est vachement bien. C'est le MOBA de Pokémon sur mobile et je peux vous dire que c'est hyper fun à jouer. Et ça rend le MOBA hyper accessible, ça fonctionne complètement, et il est dispo aussi sur Switch. Et ça fonctionne très bien sur mobile, ça fonctionne très bien avec une manette. Donc je suis très curieux de voir ce que pourra donner un Monster Hunter mobile développé par Timmy.
Excuse-moi, mais Timmy, c'est pas eux aussi qui font le Call of Duty mobile ?
C'est bien possible, ouais. Ouais. Celui d'avant, celui c'est... développé par Activision.
Et je crois que c'est aussi eux qui ont fait des trucs comme Honor of Kings, qui est un carton monumental sur le marché asiatique.
Alors, Honor of Kings, c'est le MOBA qui a complètement bouffé League of Legends sur mobile. Enfin, c'est une vraie copie de League of Legends. Et c'est un mastodonte complètement invraisemblable. Et oui, je te confirme, c'est bien eux qui le font, je suis sur leur site. Et c'est eux qui font Call of Duty mobile aussi. Oui. Donc,
c'est pas rien. Et c'est intéressant parce que Capcom, c'est vraiment parmi les gros éditeurs japonais, c'est vraiment le seul qui a jamais réussi à avoir du succès sur mobile. Et donc, c'est intéressant de les voir bosser avec un studio qui enchaîne les succès, quoi.
Ouais, on est d'accord. Et quoi d'autre ?
C'est Tencent, hein.
C'est Tencent, tout à fait, ouais. Mm-hmm. Bon, de toute façon, enfin. Tout est Tencent. En fait, dans l'industrie...
Ça peut être NetEase, des fois.
Voilà, c'est ça. J'allais dire, dans l'industrie du jeu vidéo, en particulier quand tu parles de mobile, tu peux dire que c'est Tencent, t'as 60% de chance que ça soit le cas, et le reste du temps, c'est NetEase. Diablo 4 a fait un nouveau... l'équipe de Diablo 4 a fait un nouveau round de communication. Ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est une early beta, une open beta début 2023 et un lancement à un moment en 2023, ça on le savait déjà, mais une open beta début 2023. Donc, si vous êtes fan de Diablo, préparez-vous. Autre petite news sur lesquelles on conclut, allez, vous vous souvenez de Paragon ? C'est une belle histoire, ça. Enfin, c'était pas une belle histoire, mais là, ça devient possiblement une belle histoire. Vous vous souvenez de Paragon ou pas du tout ?
Ouais, ça me parle.
Ça me parle, mais j'arrive pas à bien voir.
Alors, Paragon, c'est le MOBA 3D de Epic qu'ils avaient lancé en open beta en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Il était en early access en 2016 et il a du coup été, il a pas super bien marché. Il a été abandonné en 2017. Quand Fortnite a commencé à bien marcher, ils se sont concentrés sur le truc qu'il fallait. Et ils ont mis tout le jeu, toutes les assets du jeu, toujours dans l'esprit de Tim Sweeney, ils ont tout mis en accès libre. Et du coup, il y a plusieurs communautés qui ont repris les assets et qui ont voulu refaire le jeu, plusieurs développeurs, plusieurs équipes de développeurs. Et là, il y en a un qui arrive, qui s'appelle vraiment Paragon. Ils ont obtenu l'autorisation de Epic d'utiliser le nom. Il s'appelle, alors il y a un nom Paragon The Overprime. Et du coup, le jeu arrive aujourd'hui, c'est le 10 novembre. On n'a pas de date de sortie, mais c'est le test là, le 10 novembre. Et maintenant que je connais un petit peu les MOBA, je trouve que ça, c'est une idée vraiment intéressante d'avoir un MOBA en troisième personne, en 3D. Bon, ça ne veut pas dire que le jeu sera bien, parce que clairement, ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose qui fonctionnait. Mais peut-être que ce n'était pas quelque chose qui était intéressant au niveau d'une société comme Epic. Mais peut-être que pour un petit développeur, ils pourront réussir à développer une communauté. Ça serait bien pour eux. Mais je trouve ça cool que ce jeu qui a été abandonné, finalement, soit ressuscité par des passionnés, quoi. Et il a l'air d'être vraiment bien fini.
Ouais, visuellement, ça fait envie, en tout cas, la vidéo que tu passes, là, c'est assez chouette.
Je trouve, ouais, ça a l'air cool. toujours dans la catégorie 1, c'est bizarre cette histoire. Bungie a dû demander à ses joueurs, enfin, informer ses joueurs que beaucoup d'entre eux qui jouaient sur PS5 jouaient en fait avec la version PS4. Et ils ne sont pas au courant du fait qu'il y a une version PS5 qui charge plus vite, qui a plus de...
L'interface PS5, elle est affreuse pour ça. Hein.
C'est ignoble, infernal.
Enfin, mais récemment, moi, j'ai joué avec le jeu.
Ça va un peu mieux. Un peu mieux, en fait, quand tu dois choisir celui à télécharger, mais quand tu as déjà téléchargé une version, pour aller chercher l'autre... En gros, quand tu as déjà téléchargé la version PS4, pour aller chercher la version PS5, c'est infernal.
Ah ouais, moi j'ai eu le coup là, le dernier en date c'était Horizon
Forbidden West,
que j'avais du coup pris sur PS4 pour profiter du up gratuit PS5, d'ailleurs je crois que c'était le dernier jeu qui le faisait, et tout le temps t'as les deux jeux, les deux versions PS4, PS5 qui se mettent sur la home, par défaut ils te sélectionnent la version PS4 alors que bah non, tu veux jouer à la version PS5, enfin c'est super, et en plus il insiste pour te retélécharger en permanence le contenu de la version PS4, donc t'as rien à cirer.
Ah mais t'as pas dû l'effacer la version PS4, alors faut l'effacer.
J'ai essayé mais à chaque fois que je remettais le CD dedans elle se remettait. Ah bah ouais, donc j'ai pas dû bien faire le truc, mais à chaque fois j'effaçais,
hein, mais...
ouais bah écoute, mais donc tu vois c'est que soit je ne suis vraiment pas doué, mais je ne te laisserai pas dire ça, Patrick.
Mais non, mais je ne me permettrai pas.
Très clair.
Mais on est d'accord. Mais ça va même plus loin, parce que si tu commences à jouer sur la version PS4, c'est compliqué souvent de passer les sauvegardes sur la version PS5. Enfin bon, maintenant ils ont un petit peu mieux géré le truc, et pour Destiny c'est pas important parce que c'est géré en ligne. Mais bref, bon, voilà, c'est quand même marrant que la plupart des joueurs.
Je suis pas étonné, quoi.
Ouais. On est dans la chatroom Smart Delivery versus Dumb Delivery. C'est vraiment ça. Sur ce coup, Microsoft avait raison. Et enfin, Netflix reprend en charge le projet de film Gears of War. Bon, je vous avoue que bon. Et dans l'autre sens, il y a Lionsgate qui voudrait faire un jeu AAA de sa franchise John Wick. Alors... évidemment, on va se dire, mais c'est Sifu qui veulent faire, et je ne vous donnerai pas tort, mais en AAA, j'aurais très curieux de voir ce que peut donner un jeu de John Wick. Bon, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus, mais je suis d'accord que ça serait plutôt cool. Et voilà pour nos news rapides et pour toutes les news de l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce moment, d'avoir abandonné vos devoirs de parents envers Atreus. Pour passer un petit peu de temps avec moi. C'était délicieux, comme toujours. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut se retrouver, où on peut vous retrouver sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu? On va commencer avec Oscar. Où es-tu sur le net?
Sur le Dostri, avec pas mal d'articles qui devraient arriver dans les semaines qui viennent. Et puis, tu avais parlé de Le Père et le Maire. Je pense qu'il y aura un épisode. On prend un peu plus de temps que d'habitude parce que ça va être un gros épisode particulier.
Mais
qui arrivera dans les semaines qui arrivent.
Oh là là, ce teasing. Comme je vous le disais, et en fait, il y a quelques podcasts quand ils sont disponibles, j'arrête ce que
vous emballez pas trop non plus.
Pardon ?
Vous emballez pas trop non plus. Là.
Non. Non, mais d'une manière générale, au-delà de cet épisode qui sera peut-être sur un sujet spécial, il y a quelques podcasts, quand ils sortent, j'arrête ce que je fais et j'écoute le podcast. J'arrête les autres podcasts que j'écoute et j'écoute celui-là tout de suite, et Le Père et le Maire en fait partie. C'est, d'ailleurs, on dit ça, mais c'est un podcast qui est réservé aux abonnés Gamekult. Donc, soit vous pouvez vous abonner à Gamekult, soit vous pouvez, si vous êtes déjà abonné, aller et vous intéresser au podcast Le Père et le Maire, qui est de grande qualité.
Et sur Ludostri aussi, c'est pour les...
Pour les abonnés, Ludostri aussi.
Gamekult, voilà, les deux.
Les deux, d'accord. Du coup, je pourrais l'écouter sur les deux, puisque je suis aussi patriote de Ludostri. Donc, t'es bien, on est en bonne compagnie. Escarina, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Alors moi, on me retrouve sur Twitter, Escarina _, on me retrouve aussi sur Kiss My Geek, et puis bah, comme tu le sais, régulièrement, en général une fois par mois, chez les trublions de Super Gamer Side, qui ont à chaque émission un mot gentil pour toi. Ils sont très jaloux de toi, Patrick. La garde partagée est compliquée.
Ils sont jaloux parce que t'es chez moi aussi, c'est ça ? Ils voulaient te garder à eux tout seuls.
Tu sais que le rendez-vous jeu, c'est un peu le miroir complet, l'opposé complet de Super Gamer Side. Là où chez Super Gamer Side, c'est la vulgarité et l'approximation, ici on est dans le bon goût et dans la précision. Donc forcément, tu vois, ils aiment bien. C'est un peu le grand frère qui ou l'inverse, parce que je ne dirais pas que c'est plutôt toi le grand frère dans l'histoire, mais c'est le petit frère qui vient taquiner le grand.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
C'est bien évidemment fait en toute bienveillance.
Évidemment. Super Gamer Side, le podcast tous les mois, effectivement. Le site est en maintenance.
Est en maintenance depuis plus d'un an. Tu vois, ça reflète exactement. On dit qu'on est un podcast semi-professionnel. Et ben voilà, jusqu'au bout, tu vois.
Très, très bien. Merci beaucoup, Eska. Pour ma part, c'est Note Patrick. Vous me retrouvez partout sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez aussi les liens vers toutes les activités communautaires, comme le Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord. On passe de bons moments ensemble. On parle de plein de jeux. On a des forums et des channels et des sujets sur plein de trucs différents. Et c'est des gens sympathiques, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le reste d'Internet. Vous avez aussi le live sur Twitch. Toutes les semaines, quand les enfants sont pas malades, on est en live sur Twitch le jeudi midi pour le rendez-vous jeu et le mardi midi pour le rendez-vous tech. Et au-delà de ça, il y a le Patreon, patreon.com/rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission. Vous connaissez, hein, vous choisissez la somme que vous attribuez à chaque épisode et vous êtes facturé en fin de mois, chaque mois, et vous avez des contenus bonus, des trucs super cool comme les émissions sans pub, etc., des éditos où je vous parle de ma vie et plein d'autres choses. Et je crois que c'est à peu près tout. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que les liens vers les comptes Twitter de mes co-animateurs sont dans les notes de l'émission aussi. Donc vous pouvez aller leur dire bonjour très facilement. Et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Je vous fais de grosses, grosses bises et à très vite. Ciao, ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.